Études sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus, te connais.
Bien-aimés, bien-aimés en Christ, shalom à vous et je suis vraiment dans la joie de vous compter parmi les auditeurs de cette émission. Chaque dimanche et à pareil moment, nous choisissons un chant, un cantique ou un hymne et nous essayons de comprendre ce chant-là, de comprendre les lyriques de ce chant par les saintes écritures. Et pour cet exercice de commentaires et d'études, nous sollicitons toujours le service de notre bien-aimé, l'autre Laurent, bien-aimé en Christ, le frère l'autre Laurent, à qui nous saluons. L'autre Laurent, bonsoir.
Bonsoir Olivier.
Comment vas-tu?
Oui, ça va.
Tu as passé une très bonne semaine, je l'espère.
Bien sûr.
Ok, on rend grâce à Dieu et on pense que c'est la même chose avec nos auditeurs et auditrices, ceux-là qui nous suivent tous les dimanches et qui sont toujours présents, toujours connectés à leur place pour nous suivre dans cette émission Études sur Cantique. Avec l'autre Laurent, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, étudier un chant. Hein, en ce jour, je vais dire même que c'est un hymne et nous aurons à étudier comme chanson, comme hymne, un hymne qui est composé en tout de 5 strophes et de 2 refrains. Le titre de la chanson est « Dieu peut-il compter sur nous ?» C'est une question à laquelle on va répondre. « Dieu peut-il compter sur nous ?» Je vous laisse écouter l'hymne qui est interprété par Yvon Gendron. Je vous laisse avec la chanson, avec l'hymne.
Penser à demain. sur la terre. Un fidèle intercesseur s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Je veux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi. Je te suivrai par la foi.
Peut-il compter sur nous? Je l'ai dit au début de l'émission que c'est un chant composé de 5 strophes et de 2 refrains. Je vais donner la parole à l'autre Laurent pour qu'il puisse nous servir les paroles ou les lyrics de ce hymne.
Très bien. Le premier couplet est structuré comme suite. Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été. Le refrain qui suit donne ceci. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Deuxième couplet. À l'heure du sacrifice qui n'a pas son morija. Lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Troisième couplet. Et si l'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quatrième couplet. Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde aussi pécheur, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Cinquième couplet. Par son esprit, par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi, je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Un refrain. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi. Oui, tu peux compter sur moi.
Très bien. Alors, l'autre, Laurent, qui a composé ce cantique?
Bien, les lyriques sont l'œuvre de Madame E. Tissot-Rebert. Le refrain est l'œuvre de... on le retrouve dans un recueil, Alexander's Hymn, part 2. L'interprétation est l'œuvre de Yvon Gendron. Voilà.
Ok, c'est tout ce que nous avons comme information sur...
Bien entendu.
Oui, mais il faut aussi préciser que le chant se retrouve dans le recueil sur les ailes de la foi.
Mm-hmm.
Sur les ailes
mm-hmm.
de la foi, notamment au numéro 655. Vous avez le chant là-bas. Hein? Mais on va maintenant essayer de comprendre la chanson. Mais avant d'en arriver là, je voudrais bien qu'on réécoute le chant jusqu'au premier couplet. On y va avec Dieu peut-il compter sur nous? On va jusqu'au premier couplet, juste au premier couplet, on s'arrête.
Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les pleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là, pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous?
Nous sommes allés un peu plus loin que le premier couplet, on est allé jusqu'au refrain, c'est exprès, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant répondre à la question, Dieu peut-il compter sur nous? L'auteur pose la question de façon récurrente dans le cantique. Et la question que je vais poser à l'autre Laurent est la suivante. L'autre Laurent, Dieu peut-il compter sur nous dans les jours où tout est joie, lumière et félicité? Et quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous à tout moment?
Normalement, il devrait compter sur nous. La formulation même de lyrique nous donne de nous demander si ce n'est pas un reproche que Dieu, de par cette chanson, est en train de faire. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque nous évoluons avec Dieu, nous avons tendance à oublier le passé. Nous avons tendance à oublier d'où nous sommes venus, d'accord? Et qui a fait de nous ce que nous sommes? C'est en ce moment alors que nous faisons des choses, nous prenons des décisions, et sans consulter Dieu. Parce que dès les premiers instants de notre marche avec Dieu, nous étions conscients de notre dépendance permanente de Dieu. Parce que notre survie est au prix de notre dépendance de Dieu. Comme l'enfant qui vient au monde est conscient que sa survie est au prix de sa dépendance de sa mère, par exemple. D'accord? Quand un enfant vient au monde, si vous le laissez 5 jours avec son père, le père n'a pas de lait maternel, donc il va mourir. Donc l'enfant dépend de sa mère. Et là, quand on plonge notre regard dans l'histoire de l'humanité, notre contact avec Dieu, vous allez retrouver la même tendance. Quand je prends par exemple Deutéronome chapitre 6, hein, verset 10, il dit « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob de te donner. » Donc une promesse a été faite au patriarche et Dieu est sur le point de concrétiser cette promesse. Et Moïse rappelle aux enfants d'Israël la fidélité de Dieu. Et maintenant, il montre ce en quoi c'est par grâce que ces gens-là auront accès à cette terre. Pourquoi? Parce que, il dit, tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes, des oliviers que tu n'as point plantées. C'est-à-dire que c'est par grâce que tu entres en possession de ce qui naturellement ne devrait pas te revenir. D'accord? Et maintenant il dit, lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça c'est le passé ça. De la maison de servitude.
d'accord? C'est le danger.
Ouais.
Quand nous oublions notre passé, nous oublions qui Christ est pour nous, et que par sa grâce, il bénit notre vie, nous nous contentons des bénédictions. Il y a même le piège où, à un moment donné, nous avons comme l'impression que nous méritons les bénédictions de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 10, « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Verset 14, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. » Verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis cette richesse. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. » Verset 19, « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, si tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Ce petit verset-là, verset 19, vous montre encore une fois la folie de ceux qui enseignent la sécurité éternelle. C'est Moïse qui est en train d'avertir le peuple d'Israël pour leur dire, aussi longtemps que vous restez dans les limites de ce que Dieu vous a révélé, vous avez la vie sauve. Mais si vous sortez de ce cadre-là, et vous vous permettez de sortir vers le monde, vous allez périr. Donc là, c'est comme si lorsque nous commençons par prospérer, c'est comme si Dieu a mal fait de nous rendre prospères. C'est en ce moment que notre consécration, devient formaliste.
Et elle diminue fortement.
Voilà, le zèle est devenu calculateur. La conviction est émoussée, la compromission est admise comme étant tout à fait normale. Quand nous commençons pas à évoluer en société en tant que chrétiens, examinons nos vies. Avant ça, quand nous devrions aller à l'église, examinons nos vies et nous allons constater par nous-mêmes qu'aujourd'hui nous nous permettons des choses que nous ne pourrions pas faire aux premières heures de notre conversion. Pourquoi? Parce que, oui, nous sommes déjà arrivés, tout est pour le mieux, nous avons le vent en poupe, et c'est dangereux. Donc, la question posée dans cette chanson-là, quand le ciel est ensoleillé dans notre vie, quand tout indique que nous sommes dans les bonnes grâces de Dieu, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Parce que si à un moment donné, il ne peut plus compter sur nous, là, c'est grave. Et l'Écriture est là pour nous enseigner. Psaume 44, verset 1, au chef des chantres des fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps. Au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point par leur bras que tu les as acquis. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Pourquoi? Parce que tu les aimais. Tu vois, le psalmiste est en train maintenant de dire à Dieu, nous qui sommes de la jeune génération, oui, nous comprenons que ceux qui nous ont devancés là, mais c'est par grâce qu'ils ont été sauvés. Ce n'est pas à cause de quelque chose qu'ils avaient fait en amont que Dieu les a sauvés. Donc le danger pour la génération actuelle, c'est qu'à un moment donné, oui, je prie tel nombre de fois, je jeûne tel nombre de fois, je fais telle prouesse religieuse, et donc sur cette base-là, je suis dans les bonnes grâces de Dieu. Vous n'avez rien compris. La grâce de Dieu, vous l'avez compris autrement. D'accord? Donc, là, la question posée nous montre que, à un moment donné, Dieu ne peut plus compter sur les hommes dès qu'il commence pas à prospérer. Israël a prospéré et il s'est régimbé contre Dieu. D'accord? Il est devenu un veau gras et il a oublié son Dieu. D'accord? Et ça aussi, vous le comprenez quand vous lisez les Écritures. La première déception que Dieu a eue dans la création, c'est la folie d'Adam et Ève, ce qu'ils ont fait. Il était déchu dans la question que Dieu a posée dans le jardin. Adam, où es-tu? Dans cette question, si vous lisez les Écritures, en vous laissant baigner, imprégner par le contexte, vous saurez que cette question a été posée avec la tristesse au cœur. Tu es où? est devenu? Tu vois un peu? Dieu a été déçu. Je parle de la création en ce qui concerne Adam. Les anges qui se sont rébellés, là, ça a un autre cas à part. Parce que la création de l'homme est une création toute particulière. Et Adam a déçu Dieu. Et aujourd'hui, quand un pécheur meurt, pour beaucoup de gens, c'est pourquoi il faut rester dans les limites des saintes écritures. Vous pensez que quand un pécheur meurt, Jésus se réjouit? Quand quelqu'un va en enfer, là, Jésus est content? Quand il voit que malgré son sacrifice à la croix, quelqu'un, malgré tout ça là, peut-être qu'on ne lui a pas pressé ou bien l'a refusé, et le voilà séparé d'avec Dieu pour l'éternité. Jésus est content? Ça c'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, lorsqu'un rétrograde refuse de revenir à Dieu, malgré tout il refuse de revenir à Dieu, est-ce que en ce moment Jésus, il continue de les aimer, mais il ne peut plus les sauver lorsqu'ils vont entrer dans l'éternité? Frères et sœurs, contribuons à aider le pécheur à se repentir. Contribuons à aider les rétrogrades à revenir à Dieu. Ne vous hasardez pas à aller sur un terrain pour lequel Dieu ne vous a pas appelé. Il ne vous a pas donné l'ordre d'aider quelqu'un à mourir sans Christ. Cet ordre-là n'est pas dans la Bible.
D'accord. C'est compris, l'autre Laurent. La question est fondamentale. Et ce qui est étonnant et surprenant, c'est que dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, tant les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, normalement, Dieu doit compter sur nous.
Bien sûr.
Normalement. Mais la question qui est posée, est-ce qu'il peut compter sur nous tant tout va bien?
Oui, mais c'est en ce moment que si j'écoute cette émission ou que je suis en train de suivre directement, mais ça m'amène à réfléchir. Et là, quand je permets à l'esprit de me sonder, là, je me rendrai compte qu'à un moment donné, ma conviction en la parole de Dieu a été émoussée. À un moment donné, ma consécration pour Dieu a pris une autre tournure. Et que, apparemment, je suis toujours là, alors qu'en réalité, je ne suis pas là. Okay. En temps, oui. Si on n'arrive pas à prendre conscience et connaissance de notre état actuel, là, on risque de continuer sur la lancée, et vers la fin, on se rendra compte, malheureusement, qu'on s'était éloigné de Dieu depuis très longtemps. Donc, que l'Esprit de Dieu nous aide à prendre conscience de ça. Frère, si les bénédictions de Dieu t'éloignent de Dieu,
c'est grave.
Qu'est-ce que tu diras au jour de Christ? Ma sœur, si la prospérité que Christ t'a accordée là, t'éloigne de Christ, t'éloigne de sa parole, t'éloigne des injonctions de son esprit, que diras-tu quand tu vas franchir le Rubicon, quand tu vas entrer dans l'éternité? Qu'est-ce que tu diras le jour là? Parce que tu vois, le matériel là sera laissé derrière. Le matériel sera laissé derrière quand tu vas rentrer dans l'éternité. Si le matériel t'éloigne de Dieu, qu'est-ce que tu diras dans l'éternité?
Ça, c'était la première question. La deuxième question qui est posée, le pourra-t-il jusqu'au bout?
Oui, ça veut dire que normalement, à notre conversion, nous avons fait allégeance à Christ.
Quand on est béni en temps de prospérité, en temps où tout va bien, on doit aller jusqu'au bout de notre consécration.
Bien sûr.
C'est ce que ça veut dire.
Oui, jusqu'au dernier souffle. Nous devons tenir ferme jusqu'au dernier souffle, et c'est en cela que Dieu se réjouit, et c'est en cela, bien entendu, qu'il nous accueillera en disant « Entre dans la joie de ton maître ». C'est avec joie que le Seigneur dira ça. Ce n'est pas avec tristesse, parce que dans l'éternité, quand nous franchirons les portes de l'éternité, quand nous nous présenterons devant lui, soit nous sommes rejetés, soit nous sommes accueillis. Et il n'y aura personne qui, méritant d'être rejeté, sera accueilli. Non, Dieu ne se trompe pas.
D'accord.
Comme d'autres religions disent, quand le jour-là, il te regarde ta tête, il te dit non, bon, tu ne m'as rien fait de mauvais, mais allez, je ne veux pas te voir dans mon royaume. Ça, vous savez en même temps que l'esprit qui pousse les gens à dire ça, ce n'est pas l'esprit du Dieu vivant.
Très bien. Donc, premier couplet, première strophe, quand tout va bien, la question a été posée et la réponse est au niveau de tout un chacun. On va aller maintenant au niveau de la deuxième strophe et on va écouter le chant ou bien l'hymne jusqu'au couplet 2.
Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voile s'ouvrent au soleil d'été. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là, pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? À l'heure du sacrifice, qui n'a pas son origine, lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là, pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous?
Laurent, la même question est posée. Mais cette fois-ci, dans une autre situation. Et là, il est dit, je reprends les paroles du second couplet, à l'heure du sacrifice qui n'a pas son morija, lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat, est-ce que Dieu peut-il compter sur nous? Sincèrement, à te dire vrai, Laurent, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce passage à l'heure, à cette partie de la chanson, de l'hymne, à l'heure du sacrifice qui n'a pas son morija. Je n'ai pas du tout compris. Si tu peux vraiment m'éclairer, ça me ferait du bien.
Oui, le fait que le mot morija ait été mentionné nous rappelle l'histoire d'Abraham. Vous avez Abraham, vous avez Agar, vous avez Sarah, et puis vous avez Isaac. Alors, si vous êtes habitué à la Bible, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que Dieu avait promis un enfant à Abraham. Et Sarah n'était pas en mesure de concevoir. À un moment donné, vous savez que Abraham était allé en Égypte à un moment donné de sa marche. Et de retour là, la Bible dit que des servantes, des serviteurs lui ont été donnés. Et donc, pour une raison ou pour une autre, quand bien même Dieu a fait cette promesse, Sarah dit à son mari, écoute, on va prendre une servante là, et puis bon, tu vas t'exercer avec elle, et puis on aura un enfant. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ça la folie d'Abraham qui nous crée des problèmes aujourd'hui. L'histoire des Arabes, des Palestiniens avec les Israéliens, tout ça là, c'est juste parce que Abraham a écouté Sarah. D'accord? Et donc, ici, l'enfant pas fini, Isaac est né. Et pour un homme qui a entendu d'avoir son propre fils à lui, l'enfant étant né, à un moment donné, toute l'attention d'Abraham se portait sur l'enfant, l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. Et sans qu'il s'en rende compte, sa consécration, son intimité, sa dévotion à Dieu a commencé par pâlir, a commencé par souffrir en constance et en consistance. Et donc, quand vous prenez le texte de Genèse, Dieu va lui dire, là, tu vas me sacrifier ton fils. Et il a été là quand il a dit, ton unique, celui que tu aimes. Et là, quand tu lis les textes, la formulation même est en train de te dire, Abraham, le problème que j'ai avec toi maintenant est en rapport avec ton fils. Et c'est un problème d'amour. Tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais avant. Donc, tu me sacrifies celui que tu aimes maintenant, là. Tu me sacrifies.
Ok, comme au début, au premier couplet, les bénédictions nous éloignent de Dieu. Voilà maintenant, ici, Abraham, une situation qui se crée.
Voilà, ils sont allés, le monsieur, ils sont allés sur le mont Morija.
Et là, en chemin,
il a pris l'enfant.
Oui, oui, mais le garçon lui demande, mais oui, mais on sait que quand on fait le sacrifice, on a besoin de bois, on a besoin de feu, on a tout ça. Et l'animal. Donc, comme c'est un homme de foi, même s'il ne dit rien à tout le monde, même à Sarah, il a bien fait de ne rien dire à Sarah parce qu'il connaissait les femmes. Si jamais dit, ok, Sarah, ce matin-là, je vais aller sacrifier cet enfant, je suis sûr que si Sarah n'a jamais pris Abraham par le col, le jour-là, il dit, tu sais ce qu'on appelle 9 mois de gestation, de souffrance. Tu connais le travail, quand un enfant va venir au monde, tu veux aller le sacrifier. Je te comprends. Comme tu n'as pas expérimenté, tu vois, là le jour là, vous saurez que c'est une femme.
Abraham aurait renoncé.
Donc ils sont allés. Donc arrivé là, il a lié son enfant et a voulu le sacrifier comme Dieu a demandé. C'était un test. Et là, Dieu est intervenu pour lui dire, ok, maintenant je comprends. D'accord. Ah, il comprend maintenant. Donc, on le donne un bélier à la place de l'enfant. Donc, quand l'auteur fait référence à Morija, donc cela nous rappelle des moments où nous serons amenés à sacrifier ce que nous aimons, celui ou celle que nous aimons, et qui fait ombrage à l'amour de Dieu dans notre vie. Ça nous ramène aussi au texte du Nouveau Testament où Jésus dit, si tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes ta soeur, tu aimes ton frère, tu aimes ta femme, plus que moi, tu n'es pas propre d'être mon disciple. Ça veut dire que si l'amour et la considération que tu as pour tes parents, que tu as pour tes enfants, que tu as pour ta femme, si tu es tellement romantique au point de désobéir à la parole de Dieu, tu n'es plus disciple de Christ. D'accord? Si tu aimes tellement papa et maman au point de voir, de lire dans la Bible ce que Dieu a dit, mais tu as préféré l'opinion de papa et de maman, et par rapport à la parole de Dieu, là tu n'es plus disciple de Christ. Donc il est en train de montrer là que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque nous venons à lui et que nous ouvrons nos bouches pour lui dire Seigneur je t'aime, il nous prend au mot. Maintenant nous devons continuer à le prouver par nos actes. Donc lorsqu'à des moments donnés de notre vie, nous commençons pas à aimer quelqu'un, quelque chose, Dieu sera obligé de nous pousser à sacrifier cette chose. Parce que cette personne et cette chose deviennent une idole dans notre vie. Voilà. Quand on prend l'exemple de l'apôtre Paul. Vous savez, les enfants d'Israël, chacun est fier de ça, de sa lignée, de ses ancêtres. Écoutez, en Israël, toutes les tribus se valent. D'accord? Mais là, la différence est dans le travail que ou l'œuvre que chacun appelait à faire. Quand vous prenez les prophéties de Jacob sur ses enfants, dans Genèse 49, je crois bien, là, vous allez voir que les enfants n'ont pas la même destinée. Mais ils sont tous les enfants, les fils d'Israël. D'accord? Toutes les tribus se valent. De la même façon, aujourd'hui, dans le corps de Christ, tous les enfants de Dieu se valent. C'est-à-dire, le même sang qui a lavé le dernier-né, celui à qui on vient juste de prêcher, qui vient de naître là, c'est le même sang qui a lavé l'apôtre, qui a lavé le prophète, le bishop. D'accord? Sur la base de notre filiation avec Dieu, nous nous valons. Il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes en Christ. Il n'y a plus de circoncis, plus d'incirconcis. Mais en ce qui concerne le ministère et le leadership, il y a une différence. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Si ton leadership te met en position de donner des directives, de donner des instructions, ça ne veut pas dire que tu es plus enfant de Dieu que celui qui subit ton autorité. Non. Donc si on comprend la chose de cette façon, l'apôtre Paul aussi a dit, écoutez, si les autres apôtres là pouvaient dire, nous sommes des Israélites, il dit, très bien, s'il faut aller sur ce terrain-là, il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la foi. Donc, sur ce terrain-là, nous sommes égaux. D'accord? Pharisiens, quant aux zèles, persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Donc, il prend tout ça là, il montre, il dit, si c'est ça, voilà. Mais, il a sacrifié tout ça. Parce qu'il a fait une découverte que le pharisaïsme ne pouvait pas lui donner, que le judaïsme ne pouvait pas lui donner. Il a commencé maintenant par adorer Dieu en esprit. Il a une révélation du Christ glorifié. C'est pour cela qu'il va dire, Philippiens 3, verset 7, il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte. Pourquoi? À cause de Christ. À cause de la personne de Christ. Et il va continuer en disant, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. La révélation que Christ a donnée sur sa personne était tellement importante aux yeux de Paul que toute cette considération tribale et autre là n'entrait plus point en jeu. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que Moïse voyait l'invisible. C'est pourquoi il n'a pas craint de quitter l'Égypte. Et il a refusé de faire partie de la lignée des pharaons. Tu vois un peu? Donc, si, aussi longtemps que vous n'avez pas une révélation des Écritures, une révélation venant de l'Esprit de Dieu sur qui Jésus est pour vous, vous allez nager dans l'étang, dans la boue de considération humaine. Et ça va vous influencer grandement. Ça peut même vous affecter au point où vous ne découvrirez pas le plan que Dieu a pour votre vie. D'accord? Mais lorsque par les Écritures et par l'action du Saint-Esprit, vous découvrez qui vous êtes en Jésus, là, en ce moment, vous avez dit non, mais je ne vais pas me rabaisser au point d'aller embrasser le Dieu de ce monde. Je ne vais pas me rabaisser au point d'aller prendre la souillure que ce monde offre à ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est en ce moment que marcher dans la sainteté devient un style de vie pour vous. C'est tout à fait normal pour vous de rejeter ce que le monde offre et de vous en tenir à la parole de Dieu et à la personne de Christ. Si vous n'êtes pas parvenu à ce point, vous êtes juste un religieux. Et c'est tout à fait normal que vous soyez emporté par les vagues saisonnières de tel mode, de telle façon de faire qui survient de temps à autre. Et puis vous allez un jour à la fin de votre existence vous rendre compte que vous avez entendu parler de Christ, mais vous ne le connaissez pas. Et par conséquent, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu.
Très bien. C'était là le second couplet. Lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat,
ouais, combat intérieur.
Combat intérieur, tu es convaincu que tu aimes ceci plus que Dieu, et tu refuses de le laisser, de le livrer en sacrifice sur le mont Morija, alors le combat se livre en nous. Est-ce que Dieu
peut-il compter sur toi?
Compter sur moi.
Oui, maintenant, là, à ce niveau, il parle de combat intérieur. Hein. Oui, Vous savez que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, verset 5, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Lutte au dehors, crainte au dedans. Lutte au dehors, crainte au dedans. Parce que le diable se sert du monde et de la chair pour nous attaquer. Et cela crée en nous le doute. Nous l'avons dit dans l'émission précédente, lorsque le doute est là, lorsque d'un seul coup on a l'impression que Dieu nous a désertés, que Dieu n'est plus avec nous, tout ça. Donc, quand nous passons par cette période-là, est-ce que Dieu peut toujours compter sur nous? Est-ce qu'on peut, en dépit de tout, c'est ce qu'il a dit dans Romains 4, que Abraham, en dépit de la situation du moment, qui lui dit, écoute, tu es vieux, ta femme est vieille, tu n'auras pas d'enfant. Le monsieur a choisi de croire en Dieu. Et cela lui a été imputé comme une justice. Donc, c'est ce à quoi Dieu nous appelle.
Très bien. On va maintenant aborder la troisième strophe qui parle d'autre chose. On y va.
Les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les pleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là, pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Du sacrifice qui n'a pas son origine, lorsque que notre front se plisse, quand nous se livre un combat. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? L'heure aura-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? L'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin. Si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu.
Et si l'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? L'autre Laurent, ça c'est la troisième strophe.
Mm-hmm.
Un autre aspect est abordé à ce niveau.
Là, c'est quand nous sommes poussés à notre extrémité. D'accord? Et là où nous avons la conviction, en analysant la situation, que c'est fini. Il n'y a plus de possible recours. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est la partie où nous n'osons penser à demain. D'accord? Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est-à-dire, à ce niveau-là, nous continuons de mettre notre confiance en Dieu. Donc, jusqu'à ce point, Dieu comptait sur Paul et ses compagnons. D'accord? Donc, là, lorsque nous sommes parvenus à un point où nous serons tentés d'assurer notre lendemain, il y a cette tentative-là. Tu sais, ça arrive parfois dans la vie où on essaye de... Bon, on dit souvent, on ne sait jamais. En cas de qu'est-ce qu'il y a, n'est-ce pas? C'était ce que Sarah a fait à son mari en lui disant, écoute, on est, toi et moi, là, on est sur la voie qui mène à la tombe. Donc, tes troupeaux, là, hein? Eliezer va venir prendre. Adoptons un enfant. Ou, bon, comme on ne peut pas adopter à cette époque-là, donc, donc exerce-toi sur Agar, et puis si le produit sort, on sait qu'il va prendre. Donc, Eliezer sera. Ça, c'est la sagesse humaine, ça, c'est la réflexion humaine. Alors, donc là, mais quand on va plus loin, on se rend compte que notre obéissance peut nous attirer la foudre de Nebuchadnezzar, par exemple. Vous souvenez de l'histoire des compagnons de Daniel, et même avec le roi Darius, c'est la même chose. Là, je vous lis Daniel 3, verset 16, où il est dit clairement que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. D'accord? C'était un décret royal. Que tout le monde doit se prosterner. Or, cette décision du roi contredisait la parole de Dieu. Exode chapitre 20, où il a dit, tu ne vas pas te prosterner devant l'ouvrage des mains d'un homme, tout ça. Donc ça, c'est de l'idolâtrie. C'est un appel national à l'idolâtrie. Et ils ont dit non, pas question. Pas question. Le roi était furieux et les a menacés. Donc, j'aime bien leur réponse. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ah, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et nous devrons de ta main, ô roi. Sinon, même si je choisis de ne pas le faire, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ça, c'est ce qu'on appelle un croyant. Ces jeunes gens-là, au jour de Christ, vont défier certains pour leur dire, dans telle situation de la vie, tu as fait quoi? Ils ont dit non, pas question.
Malgré la menace de la fournaise, ils n'en ont pas question. Ils étaient soumis au roi, mais sur ce point-là, ils n'étaient pas obéissants. C'est ça la vie chrétienne normale. Si quelqu'un, une créature, te pousse à désobéir au Créateur, comme c'est une personne à qui tu dois obéir, ok, on obéit, mais si c'est pour désobéir à Dieu, pas question. Tu n'insultes pas, tu ne fais pas du bruit, tu fais une belle phrase, et tu finis par dire, ok, je te suis toujours obéissant. Mais, soumis. Mais sur ce point-là, c'est hors de question. C'est non négociable. Même chose pour Daniel. Quand Darius était venu, bon, les gens étaient jaloux, ils ont complété, ils ont dit, bon, le roi aussi a fait sortir un décret. Il dit, ok, c'est quoi le décret? Personne n'adressera de prière à un quelconque Dieu ou à quelque homme, si ce n'est au roi. C'est-à-dire que maintenant, ça dépasse même le cadre du culte de la personnalité. Il faut maintenant invoquer le roi dans la prière. N'invoque pas le roi. N'invoque pas le Dieu d'Olivier. N'invoque pas le Dieu de Laurent. Parce que la Bible ne les a pas mentionnés. Le seul Dieu, le seul vrai Dieu a envoyé son Fils. Invoque Jésus. Sois précis dans ta prière. Parce que tu ne sais pas l'homme que tu utilises là pour l'attribuer comme adjuvant à son Dieu là. Tu ne sais pas qui il est en réalité. Les apôtres ne l'ont pas fait. Invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'est biblique. Que l'idée ne te vienne pas de dire le Dieu de Laurent, le Dieu d'Olivier, tout, non, 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 non. Toi là, Nouveau Testament, tu ne verras pas ça. Faut pas errer loin des Écritures. Reviens dans l'Écriture. Ici, là, ils ont dit, ok, quand ils sont allés chez Daniel, Daniel était à genoux, il était en train de prier. Et même ils ont dit, il prie 3 fois par jour. D'accord? Il ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem parce que c'est ce que Salomon avait demandé. Et donc le monsieur, il était soumis au roi Darius. Mais quand tu vas jusqu'à me, quand tu vas jusqu'à me dire de ne pas invoquer mon Dieu, non, sur ce point-là, je t'obéis pas. C'est ça la foi des chrétiens. C'est pour cela que les premiers chrétiens avaient des problèmes avec Rome, parce qu'on voulait que l'empereur soit élevé et un statut divin. C'est hors de question. Aucun être humain n'a de statut divin. C'est des créatures. Donc là, pour nous maintenant, nous avons la responsabilité de veiller sur notre foi. Que le livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Il dit quoi? Médite-le quand? Nuit et jour. Jour et nuit. Ça fait 2 fois. Mais si tu médites ton téléphone plus que la parole de Dieu, tu es en train de désobéir. Colossiens chapitre 3, verset 16, il dit quoi? Que la parole de Christ demeure parmi vous, abondamment. Et en ce qui concerne la prière, Ephésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, en tout temps. C'est la même chose qu'il dira aux Thessaloniciens disant, prier sans cesse. Acte 15, on a dit aux nouveaux convertis, écoutez, pour ceux qui ne sont pas israélites de nature, il dit qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, ça c'est 1, de l'impudicité, 2, des animaux étouffés. D'accord? Du sang. Donc tu vois, l'idolâtrie ne doit pas faire partie de notre vie. Et quand tu commences par élever un être humain, tu es en train de tomber dans l'idolâtrie. Quand tu prends une structure, une forme quelconque, et tu attribues à cette forme ce qui revient à Dieu, qui est esprit, tu es en train de tomber dans l'idolâtrie. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, quand on prend tout ceci-là, le test, la chanson est en train de nous faire comprendre qu'à des moments donnés de notre vie où nous ne pensons même pas qu'il y aura un lendemain parce que nous cherchons à obéir, à plaire à Dieu, est-ce que Dieu, même dans ce cas de figure, peut compter sur nous?
Très bien. On va aborder le couplet 4.
Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, donnant à la prière pour un monde si pécheur, Dieu peut-il compter?
Tu viens d'écouter les paroles avec moi, l'autre Laurent. Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur, Dieu peut-il compter sur nous?
Voilà. Vous savez, un intercesseur, c'est une ressource rare.
C'est un homme, une femme stratégique pour Dieu, pour son royaume. C'est une sentinelle. Pourquoi? Parce qu'il détient la destinée des hommes, des femmes, des familles, des nations, des situations sur le bout de ses lèvres. D'accord? Et à des moments donnés de l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a dû chercher un intercesseur, quelqu'un qui pourra plaider en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu, sans oublier la justice de Dieu. D'accord? Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ça veut dire que, comme je n'en trouve point, le jugement sera appliqué. D'accord? Donc, un intercesseur, ici il est question d'un intercesseur qui est en train d'intercéder pour le monde pécheur. Tu vois, tu ne peux jamais intercéder pour quelqu'un que tu critiques. Hmm? Tu ne peux pas dire que tu es en train d'intercéder pour quelqu'un que tu maudis. D'accord? Et tu souhaites le mal, le malheur de cette personne, ça ne marche pas comme ça. Et l'intercesseur est conscient du jugement imminent de Dieu. Et ça, on comprend lorsque nous lisons les Écritures, l'intercesseur se met à la place de celui ou de celle pour qui il est en train de prier. Il est à la brèche. Il a le cœur brisé, il a les yeux pleins de larmes. Il prie en faveur des coupables. Un intercesseur prie en faveur des coupables. Lamentations, là, le chapitre 1, là, c'est Jérémie qui m'a dit, « Le Seigneur a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. » Un véritable serviteur de Dieu va se retrouver dans ce verset. Un véritable serviteur de Dieu. Il n'est pas à la recherche de l'argent. Il cherche le salut des âmes. Quand il voit les pécheurs, quand il voit tout ce qu'ils sont en train de faire, il pleure devant le trône et il intercède pour que Dieu puisse intervenir gracieusement en faveur des pécheurs. Il dit, verset 18, l'Éternel est juste car j'ai été rebelle à ses ordres. Est-ce que Jérémie a été rebelle? Non. Il s'est mis à la place du peuple. D'accord? Pour pouvoir intercéder, dit, écoutez-vous tous, peuple, voyez ma douleur, mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité. Mais quand l'intercesseur fait ça, ça ne veut pas dire qu'il est en train de cautionner le péché. Non. Vous lisez à Bakou, vous allez voir. Le monsieur a appris ce que Dieu veut faire. Il a plaidé devant Dieu. Et après, maintenant, il voulait entendre ce que Dieu allait lui dire. Là, j'étais là pour voir ce que Dieu va dire. Oui. Ça veut dire que c'est une relation où tu peux voir la réponse de Dieu, ou entendre la réponse de Dieu. Donc, il a prié, vous lisez Habakkuk 2, verset 1, vous allez voir, j'étais à mon poste, et je voulais voir ce que l'Éternel allait dire. Mais quand Dieu, maintenant, lui a révélé ce qu'il va faire, cette partie-là, je l'aime beaucoup, dans Habakkuk 3, vers la fin, maintenant, quand il dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais, dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Vous ne pouvez pas lire un test comme ça et venir me dire que, oui, quand quelqu'un t'embête, il faut prier pour qu'il meure. Quand on lit un test comme ça, là, malgré ce qu'il est en train de faire contre moi, malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils font, Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Ne permets pas qu'ils périssent dans leur péché. C'est ce que Étienne a fait quelques instants avant de mourir. C'est ça, la vie de celui qui a le véritable esprit de Dieu en lui. Oui. Tu ne souhaiteras pas la mort d'une créature, mais tu voudras qu'il se réconcilie avec le Créateur.
Oui. Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce qu'il peut compter sur nous?
Oui, mais si quelqu'un est véritablement un intercesseur, Dieu va compter sur nous. Parce que la justice de Dieu demande que le coupable soit puni.
Oui.
Mais là, l'intercesseur qui a en lui l'esprit de Christ, il va intercéder parce que Christ intercède. Tu vois un peu? D'accord. Mais si c'est un autre esprit, il va se mettre en colère. Voilà pourquoi certaines personnes ne peuvent pas aller à l'évangélisation. Parce que quand ils prêchent, ce n'est plus la bonne nouvelle qu'ils viennent annoncer. Ils sont en colère et contre la personne, oubliant qu'eux aussi, ils ont été comme ça avant leur conversion.
Très bien. On va aborder maintenant le dernier couplet. Là, c'est carrément une réponse.
Ouais.
La dernière strophe, le compositeur donne une réponse à Dieu. Et sa réponse, c'est laquelle, là?
Oui, il dit, mais par son esprit et par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. D'accord? Ça, c'est ce qu'il a dit, comme nous le disant à nous. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin. Maintenant, dans le refrain, maintenant, oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Tu vois, c'est une relation avec le Seigneur.
C'est réciproque.
Donc, c'est ce que Dieu veut, quelle que soit la situation, qu'il puisse compter sur nous. C'est ce qui s'est passé quand il a vanté la fidélité et l'intégrité de Job devant Satan. Il dit, tu le gardes toute la terre, là. Oh, si tu cherches quelqu'un de fidèle, c'est Job, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, là, Dieu peut vanter notre fidélité?
Non.
Hein? Quand il voit les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes, est-ce que te concernant, me concernant, Dieu peut dire, écoute, il y a plein de gens, hein, qui sont en train d'abandonner la foi. Mais ma fille, là, mais mon fils, là, quoi qu'il arrive, il est toujours fidèle. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi?
Okay.
Qu'est-ce qui t'est arrivé entre-temps, quand tu as commencé par prospérer? Qu'est-ce qui m'est arrivé entre-temps, quand des portes de la bénédiction me sont ouvertes? C'est les questions que nous devons nous poser et nous demander par nous-mêmes, en étant sincères. Est-ce que je suis toujours dans la foi?
C'est ça.
Est-ce que je suis toujours enfant de Dieu?
Oui. Ok. Les questions posées par l'autre Laurent nous sont lancées et chacun va répondre à cette question-là. Chers auditeurs, Dieu peut-il compter sur toi?
Dans les jours où tout est joie, lumière et félicité, quand les fleurs sur notre voie s'ouvrent au soleil d'été, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? À l'heure du sacrifice, qui n'a pas son origine, lorsque notre front se plisse, quand nous se livre un combat, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Et si l'obstacle se dresse, effrayant sur le chemin, si notre cœur en détresse n'ose penser à demain, Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Là pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Quand Dieu cherche sur la terre un fidèle intercesseur, s'adonnant à la prière pour un monde si pécheur. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur nous? Le pourra-t-il jusqu'au bout? Dieu peut-il compter sur nous? Par sa grâce, Dieu pourra compter sur moi. Je le suivrai quoi qu'il fasse sur le chemin de la foi. Oui, tu peux compter sur moi, car je peux compter sur toi. Je te suivrai par la foi.